à la rue, le mal du pays. Quel triste temps il fait aujourd'hui. La pluie a recommencé de plus belle la nuit dernière. Il y a du brouillard plein les rues. Je travaille dans cette chambre d'hôtel depuis 10 heures du matin. Parfois, je vais à la fenêtre et, le front sur la vitre, je regarde les passants. Paris est devenu un immense marais. Les hommes pataugent dans la boue avec insouciance. Les femmes, les petites ouvrières surtout, pour éviter les éclaboussures, relèvent leurs jupes et mettent ainsi à découvert un bout de jambe qui laisse devenir à viner la perfection du reste. Les fiacres ruissellent. Les cochers impassibles assènent de vigoureux coups de fouet sur leur rosse famélique. Des milliers de parapluies montent et descendent les trottoirs de la rue Lafitte. Il y a des rencontres et des chocs. On dirait deux armées de gigantesques champignons se livrent en bataille. Ce qui m'énerve, c'est que cette bête de pluie ne cesse pas. Elle a l'entêtement tenace des brutes. L'horizon est sans cesse rayé par l'averse. Pas un coin de ciel bleu, pas un rayon de soleil. Oh, je ne pourrais jamais m'habituer à vivre entre les murs de cette grande ville. Pour nous, enfants du midi, le soleil est une partie de l'existence. Il nous est aussi nécessaire que l'air que nous respirons. Il mûrit nos épis et nos raisins. Il communique sa chaleur au sang de nos veines. C'est lui qui fait naître la chanson sur nos lèvres. C'est lui encore qui allume les yeux de nos filles. Il vient presque chaque jour faire de longues visites à sa chère Provence, à cette Provence parfumée qu'il aime. Et le soir, lorsqu'il la quitte, c'est comme un regret qu'il s'enfonce dans la mer. Oh, mon vieux soleil, qu'es-tu devenu? Quand me montreras-tu ta crinière rousse? Dans quelle contrée ton sourire s'épanouit-il? Je soupire après ta venue. Sans toi, je ne vis plus, je me sens vieillir, et des tristesses de croque-mort traversent mon cerveau. L'appartement que j'occupe cause une impression de froid qui pénètre dans la peau. La tapisserie, les meubles, les tentures, tout y est vieux et fané. Les bibelots de la cheminée, les moulures de la glace me remènent autant des robes grecques fendues jusqu'à la hanche, mises à la mode par des provocantes nudités de Madame Tallien. Je me sens mal à l'aise dans cette chambre où l'on rêve d'un autre âge. La nostalgie s'est emparée de moi, et contraste étrange. Par ce jour pluvieux, je fais des visions ensoleillées. Des bouffées d'air chaud me montent au visage. Mon regard retourne vers le passé et s'arrête là où j'ai vécu. Je vois d'ici un endroit que j'aimais. J'y faisais halte dans l'ombre des noyers, les matins d'avril, en me rendant à l'école. C'est au bord de la rivière, un peu plus haut que le moulin des Trois Platanes. Tout le long du sentier, les amandiers secouent leurs mille fleurs, neige odorante qui dessine des taches blanches sur le gazon. Et vers la droite, à côté de cette touffe de genêts, derrière cette haie de fenouil, je distingue la fontaine où, sans s'inquiéter de ma présence, les oiseaux venaient boire. La petite source qui l'alimente ressemble de loin à un fil de métal luisant entre les brins d'herbe parmi lesquels il est tombé. Elle a pourtant réussi à se frayer un passage à travers ces roches. Elle paraisse dans son lit de mousse et de feuilles desséchées, puis en babillant avec des caresses dans la voix, elle va se précipiter dans la rivière à quelques pas de là. Par instant, le tableau change. Ce n'est plus le même paysage qui s'étale devant mes yeux. Les vacances approchent. Nous sommes 8 ou 10 gamins dans ce verger d'oliviers que nous parcourons dans tous sens. Un de mes compagnons prétend avoir vu Annie Chardonneret dans le voisinage. Il s'agit de le trouver. Pensez donc, nous avons taillé la classe pour être plus libres. La poitrine au vent, les cheveux en désordre, nous voilà partis. Ne nous inquiétons seulement pas des coups de soleil. Nous examinons chaque tronc d'arbre, nous secouons toutes les branches. Et de temps en temps, la crainte d'une surprise nous oblige à regarder en arrière. Ces silences anxieux donnent un charme singulier à cette maraude. Les heures s'écoulent ainsi dans la fièvre d'une joie longue à venir. La nuit nous étonne. Nous avons bien trouvé le nid, mais il était vide. Le plaisir est déjà loin. Il faut retourner au village. Qui sait ce qui nous attend là-haut? En regagnant la maison paternelle, je mets ma cervelle à la torture pour trouver le moyen qui me permettra de dissimuler la large déchirure faite au fond de ma culotte et au travers de laquelle passe, Dieu me pardonne, un bout énorme de ma chemise. Ces souvenirs sont enchaînés à d'autres qu'ils entraînent après eux. Sans le vouloir, je songe à l'accueil sympathique que fit, oh, il y aura bientôt 2 ans, la ville d'Avignon au poète venu chez elle pour fêter le centenaire de Pétrarque. Oh, c'était, je crois, un samedi soir. Les lauréats du concours, les faits libres, les poètes catalans, les délégués des académies françaises et italiennes, arrivaient de Vaucluse. La population se pressait sur la vue de la République et dans les rues voisines, toutes brillamment illuminées. Elle avait refoulé les troupes et envahi la chaussée. Elle nous accablait au passage, et ses vivas enthousiastes se confondaient avec les airs joyeux des corps de musique. Cette ovation, commencée à la gare, ne finit qu'à l'hôtel de ville. Là, le maire nous offrit l'hospitalité au nom d'Avignon. Puis la petite pervenche à la boutonnière, nous fendîmes les rangs pressés des curieux pour aller flâner à travers les rues. Il faisait une de ces nuits tièdes et claires, si communes l'été en Provence. Le ciel d'un bleu foncé était tout peuplé d'étoiles. Les lampions clignotaient au sommet des mâts. Les passants devenaient rares. Le tohu-bohu de la fête s'éteignait pour en être plus vivace et plus bruyant avec le jour. Une heure après, les faits libres se réunissaient au café Tailleux. La salle du rez-de-chaussée était bondée de consommateurs. Un angle de trottoir fut mis à notre disposition. On rangea les bancs, on apporta des tables et chacun put s'asseoir. Des arbustes plantés dans des caisses peintes en verre nous séparaient du populaire. Et du haut de son piédestal de marbre, le corneille méditatif qui orne la façade du théâtre attachait sur nous son regard terne de statue. Il y avait là Mistral, Aubanel, Mathieu, Crousillat, Quintana, Gras, Jules et Paul Arène, Vidal, Bourelli, Tavant, Roubieux, Amaviel, Michel et le compositeur Duprat. Les vieux causaient avec les jeunes, espoir du Félibridge. Catalans et Provençaux devisaient dans le même idiome. On évoquait des souvenirs, et au bruit des verres heurtés, on portait des toasts aux absents et à la renaissance de la patrie. Paul Arène me racontait la suite des aventures de Rosette, la bohémienne, et de l'infortuné Nivoula, ce romancier pratique et musculeux, qui avait suivi sa folle maîtresse jusqu'à Canterperdry, lorsque je vis Mistral se lever. « Puisque les verres sont vides, dit-il, voulez-vous que nous chantions ?»« Oui, oui, chantons, répondîmes-nous. » Au bel intervalle. « Comment, fit-il, observé au capoulier, puis chacun dira sa chanson à tour de rôle. » Le père de Mireille reprit. « Laquelle désirez-vous ?» L'uporto rigo, l'uporto ego. Mistral ne se fit pas prier plus longtemps. Il posa son chapeau sur le banc à côté de lui, et de sa voix souple et vibrante, il scanda les premiers vers de cet adorable poème. En arle, o terzo di fado, florisce la regno potassurado, en russie, l'impératrice Robun, et il demanda sa main. Mais la belle eau ancestralement enlevait le pont. Demain, la foule s'était amassée autour de nous. Elle restait silencieuse. À travers le branchage des arbustes, j'apercevais des minois roses de fillettes, des gorges à demi nues soulevées par l'émotion et de beaux yeux noirs pétillants de curiosité. Avant d'entonner le second couplet, le poète de Mayanne se tourna vers les assistants et avec un geste plein de bonhomie. « Accompagnez donc le refrain, vous autres !» leur cria-t-il. L'ordre fut immédiatement exécuté. Et à la réponse, des centaines de poitrines lancèrent les quatre derniers vers. Il y avait quelque chose de grandiose dans ce spectacle qui, en gonflant les ailes de l'imagination, rappelait l'époque où les passants oisifs s'arrêtaient devant Homère, aveugle chantant en plein soleil, à l'angle d'une ruelle de Quillot, la lumière des becs de gaz mêlée aux blancheurs des rayons de lune tombait à torrents sur le groupe de poètes. La fête de Mistral se détachait en relief sur les massifs de verdure. Près du chanteur, des crânes dépouillés luisaient, et tous les visages, aux lignes plus ou moins rudes, vivement éclairés, prenaient de fantastiques aspects. Après Mistral, ce fut le tour d'Aubanel. Gras, puis Arène, Michel et Tamar succédèrent. Cette animation, cette gaieté primesautière, gagnèrent la foule. Heureuse de ses magnificences, ses réjouissances, elle manifestait sa joie en saluant d'applaudissements frénétiques chaque poète et chaque chanson. Nous nous séparâmes vers 2 heures du matin. Avignon dormait si paisiblement qu'en regagnant l'hôtel où j'étais descendu dans le calme de la nuit, j'entendais le Rhône gronder d'impatience en étreignant les piles massives du vieux pont Saint-Bénezet. Ô Paris, grand faiseur de révolution, grand démolisseur de trônes, tu ne vaux pas, malgré la renommée, le petit village où je vas au monde, un jour de beau soleil. Je suis bien loin de lui, pourtant. Je vois d'ici son clocher pointu et ses maisons blanches. Il est attaché au flanc d'une colline, mon petit village. À distance, on peut le prendre pour un nid que les aigles ont abandonné. Là, tout est paix et bonheur. Le hameau semble inhabité, les portes sont closes, les rues désertes. Tout le monde est au champ et j'entends rire des filles dans les vignes. Un rideau de toile grossière palpite sur le seuil de la boucherie. Des bruits de voix, des frôlements d'ailes sortent d'une fenêtre entr'ouverte. Sur la place, le chien du maire rêve devant l'église. Étendu sur le fumier humide et puant de sa loge, un porc que les mouches assaillent grogne de colère. Des rubans de fumée montent d'une cheminée et vont se perdre dans la limpidité du ciel. Et là-bas, à l'entrée du cimetière, le fossoyeur chante joyeusement en creusant la tranchée large et profonde au fond de laquelle iront dormir nos morts.